L'heure du lemme a sonné, la quotidienne de Transistor, c'est du lundi au vendredi et l'heure des retrouvailles avec l'association Entreprendre au Féminin Bretagne.
Lemme, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans Lemme, Lemme comme le magazine, l'émission qui vous fait entendre les gens du Finistère, les hommes, les femmes aussi, les associations qui renaissent. C'est le sujet du jour, une association qui était notre voisine dans le bâtiment de la mairie du Fou et qui avait de nombreuses années d'existence et qu'on recevait régulièrement sur cette antenne. Et puis soudain, coup de tonnerre, elle a été placée en liquidation judiciaire début 2025. Après 17 années d'existence, 10 000 femmes porteuses de projets ou entrepreneuses accompagnées, plus d'un millier d'entreprises créée par les adhérentes, eh bien ça ne pouvait pas s'arrêter là pour Entreprendre Féminin Bretagne, puisque c'est de cette association qu'il s'agit. Nous recevons aujourd'hui l'une des fondatrices qui, avec d'autres femmes, est motivée pour faire renaître l'association, c'est Gaëlle Vigouroux. Bonjour.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on peut revenir quand même sur ce qui a conduit à la liquidation judiciaire de l'association historique, passée en tout cas ?
Très rapidement, Entreprendre au Féminin a été à peu près comme toutes les associations aujourd'hui engagées sur des questions importantes et notamment sociales, en difficulté financière du fait d'une baisse de subventions publiques sur des fonds européens qui sont administrés par la région. Et du coup, en effet, le modèle d'Entreprendre au Féminin tel qu'il avait été développé depuis 2017, tout à fait. Mais en fait, l'évolution qu'elle avait eue avait quand même beaucoup renforcé les fonctions support de l'association. Et en effet, on est avec un coût RH qui était quand même très très important.
Ben oui, parce qu'en plus, quand on mène des projets européens, de toute façon, ça suppose beaucoup de rapports sur ce qu'on fait. Enfin, faut vraiment. Et puis, ça, c'est avancer l'argent aussi.
Tout à fait.
Faut peut-être prévenir les associations qui se lancent dans les projets européens, c'est qu'il faut avoir une trésorerie, quoi.
Oui, c'est un sujet. Après, ça, c'est quelque chose qu'on avait géré bien avant. Moi, je trouve que je suis la fondatrice en 2007 de l'association Entreprendre au Féminin, la cofondatrice, puisqu'on s'est déjà retrouvés dans cette même position, puisque au départ, Entreprendre au Féminin, c'est un projet européen monté par le département du Finistère entre 1999, les premières études sur les freins, les motivations des femmes à créer leur entreprise. Et puis, il y a un projet européen qui s'arrête, qui commence en 2002 et qui s'arrête en 2007. Et moi, j'arrive avec ma petite entreprise créée à Crozon, taper à la porte d'Entreprendre au Féminin. Et puis, c'est la dernière année du programme et tout doit s'arrêter. Et déjà, à l'époque, avec une dizaine de femmes, et notamment une ancienne salariée de l'époque, Gwen Ledoiré, qui est aussi dans le projet actuel, on décide d'aller prendre notre bâton de pèlerin, d'aller remonter les actions. Et on va mettre quelques années à remonter Entreprendre au Féminin sous une forme associative. Donc, c'était déjà un premier projet européen repris par ses bénéficiaires et qui a conduit en 2007. Moi, je quitte Entreprendre au Féminin en tant que salariée.
Oui, c'est vrai.
En 2017, puisque à l'époque, je suis élue à la région. Et c'est 600 000 euros de budget, ça a été 3 projets européens Interreg. C'est le financement d'Entreprendre au Féminin vient principalement de la région, mais aussi de certains départements, des communautés de communes. Et après, tout ça est abondé. Sur les fonds européens. Donc, ça fait longtemps qu'on avait de la trésorerie, puisqu'on avait une banque qui nous suivait et qui couvrait nos conventions européennes. Donc, ce n'était pas trop ça le problème. Le problème, ça a été vraiment une question de structuration et de se dire, où est-ce que je fais des coupes et quel est le modèle économique à partir du moment où je perds 100 000 euros et ce modèle économique n'a pas pu être trouvé en fait.
Et plus on grossit, plus c'est difficile à gérer. Ça c'est juste.
Et plus on grossit, plus c'est difficile à gérer. Et après, c'est aussi des questions de stratégie. C'est vraiment des questions de stratégie. D'accord. C'est-à-dire que la priorité aujourd'hui doit être donnée à l'accompagnement des femmes. Ouais. Et après, on peut mieux travailler ou bien travailler toutes les fonctions support. Mais il y avait quelque chose de super important d'Entreprendre au Féminin, c'était la transversalité. C'était le fait qu'on était toutes des entrepreneurs, mais aussi des personnes qui s'engageaient dans cette cause-là. Donc, on avait toutes des capacités entrepreneurs, en fait. Et c'est ça qui faisait la richesse d'Entreprendre au Féminin. C'est qu'on était des entrepreneurs qui montions des actions professionnelles pour accompagner d'autres femmes. Et en fait, on était très souple et très agile, en fait. Moi, je me rappelle du début, on n'avait pas des gros salaires, mais des salaires corrects, puisqu'on est dans l'égalité et qu'on paye bien les salariés.
C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses. Mais en même temps, du coup, on était aussi assez souple, en fait.
Oui, oui, c'est ça. Oui, et c'était vraiment une règle, c'est-à-dire qu'au départ, enfin, toutes les salariées étaient entrepreneurs, c'est ça hein,
Au départ, oui. Et puis, petit à petit, en effet, les salariés n'étaient plus entrepreneurs.
Ben oui, d'accord.
Et puis nous, on avait, je me rappelle, moi, à l'époque, on était des cadres autonomes. On était payés à mi-temps, en fait.
Oui, c'est ça.
Mais on faisait peut-être un peu plus, mais comme on avait des bons salaires, ça le faisait. Mais surtout, il n'y avait pas de direction, on avait une très grande transversalité. On y tenait parce que entrepreneur féminin, c'est un modèle coopératif, c'est un modèle de l'ESS. Poser une organisation très hiérarchisée sur quelque chose qui, justement, doit être chacune nos dominantes,
oui.
Mais en même temps, chacune prend ses responsabilités, mais en même temps, dans le pot commun, c'est ça qui fait avancer l'ensemble en fait. Et je pense que ça, ce n'était plus forcément le mode de management. Et à un moment donné, les fonctions support, ça coûte cher aussi.
C'est vrai.
Et si on oublie le cœur de métier qui est vraiment l'accompagnement des femmes, on peut passer à côté et puis on perd aussi peut-être de légitimité. En fait, il y a aussi quelque chose, c'est que nous, quand on est arrivés, il y avait 27% de femmes qui créaient leur entreprise.
En France. Ouais, c'était le chiffre
ouais. Là, on est arrivé moyen. À peu près, ouais. Avec l'action d'entrepreneurs féminins et d'autres réseaux, à peu près à 40% de création d'entreprises par les femmes en Bretagne.
Sans imposition de quotas, comme en politique.
Exactement. Juste parce qu'il y a des structures qui accompagnent, ouais. Et qu'il y a du réseau et qu'il y a aussi... Donc ça, c'est... Et en fait...
Ça devance un peu ma question, c'est-à-dire que 40, on se dit 40%, c'est bien, mais il y a encore besoin de structures comme entreprendre au féminin.
Mais oui, parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de femmes qui entreprennent que pour autant, est-ce qu'elles gagnent bien de leur activité ? Est-ce que leurs entreprises sont pérennes ? Et je dirais que l'entrepreneur féminin nouveau ne va pas être exactement l'entrepreneur féminin ancien.
On va voir ça, bien sûr.
Et en fait, même s'il y a beaucoup de choses qui vont ressembler, parce qu'il y a un manque, en fait, sur le chemin d'accompagnement.
Et malgré les... Parce qu'il y a aussi d'autres réseaux économiques, d'autres structures qui sont nées, notamment en Bretagne, depuis que l'entrepreneur féminin à germer, et ça suffit pas, ces autres structures peuvent pas faire exactement la même chose que ce que faisait Entreprendre Féminin.
Alors, les autres structures ne font pas du tout la même chose. D'ailleurs, on est en lien. La première chose qu'on a faite, c'est de contacter les réseaux existants, puisqu'en effet, il y avait déjà beaucoup d'actions qui avaient été transmises aux autres réseaux. Je prends par exemple la question de l'animation du réseau. L'équipe qui est partie avait transmis, par exemple, les groupes sur les réseaux sociaux pour que les femmes aient une continuité, puissent aller vers d'autres réseaux pour continuer à réseauter. Parce qu'on sait que c'est très important d'être entre pairs et de pouvoir... développer aussi ses activités en miroir et avec d'autres personnes. Le réseau est essentiel. Donc ça avait déjà été fait.
Oui.
Et en fait, c'est vrai que, par exemple, Femmes de Bretagne, puisque c'est un des réseaux
connus, Femmes
des Territoires, Femmes de Bretagne, c'est un réseau qui fait de l'entraide entre femmes entrepreneurs.
Ouais. Mais il n'y a pas de formation, par exemple.
Il y a des mini-ateliers, mais les ateliers d'aide à l'émergence qui étaient vraiment l'accompagnement phare, l'accompagnement en émergence de projet.
Ouais. On est plutôt sur des femmes. Il y avait beaucoup de succès, d'ailleurs, qui étaient très appréciés, ces ateliers-là.
Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, une femme de Bretagne, c'est super pour réseauter à l'échelle de son territoire. Vous avez déjà entrepris, puis vous allez après, créer des flux de business.
Mais quand on a un projet, et qu'on veut créer son entreprise, ça ne suffit pas.
C'est pas la même chose. Et d'ailleurs, du coup, je pense que Femmes de Bretagne a amené des femmes à entrepreneurs féminins et entrepreneurs féminins amènent aussi des femmes à Femmes de Bretagne. C'est très bien. Et tout ça est très complémentaire. Après, il y a un réseau duquel aussi on s'est rapproché, qui existait déjà il y a 10 ans. Hein. C'est les Premières de Bretagne, qui en effet un réseau...
Je ne connais pas celui-là.
Mais parce qu'ils ne sont pas implantés en Finistère, ils sont implantés à Rennes.
Ah oui.
Ils ont commencé à émerger du côté de Vannes aussi.
Oui.
Mais alors, on est vraiment en milieu urbain, on est plutôt sur des fléchages, même en termes de financement, sur les quartiers prioritaires de la ville. Donc c'est surtout pour accompagner des femmes en milieu urbain, dans les quartiers. Donc c'est des programmes spécifiques. Et puis avec une dominante start-up, c'est-à-dire qu'elles n'accompagnent pas non plus sur l'émergence de projets, c'est-à-dire de passage de l'idée au projet, elles accompagnent quand le projet est émergé et après sur la structuration, le financement. C'est vraiment des étapes différentes. Mais si on n'a pas d'accompagnement sur l'émergence, on n'aura pas de femmes qui créeront sur les autres étapes.
Et sinon, il y a d'autres structures, mais qui sont, alors pour le coup, mixtes, on va dire, boutiques de gestion qui font un bon travail, mais c'est pas pareil, c'est ça. Ce qu'il faut rappeler que c'est spécifique encore. D'être entrepreneuse quand on est une femme, quoi, d'être entrepreneureux.
Ben, en fait, oui, la vie des femmes a changé.
Quand même.
La société n'a pas encore complètement évolué en fonction de la vie des femmes qui change. Enfin, je veux dire, l'intégration des femmes sur le marché du travail en masse, c'est les années 60. Hein. Les
inégalités quand même, c'était il y a longtemps.
Ouais, enfin, en même temps, les inégalités salariales en France, il y a quand même encore 23%.
Hein, et oui,
en moyenne. Ouais. Voilà. Et plus on monte dans la hiérarchie, plus les écarts sont importants. Il y a encore un problème dans les campagnes, par exemple, pour accéder à l'emploi choisi, où on fait des études brillantes. Hein, les femmes, les jeunes filles sortent brillamment des études. Pourquoi est-ce que 3 années après leur sortie d'études, il y a une chute de la confiance quand elles se confrontent au marché du travail? Ça, c'est des questions qu'il faut continuer à travailler. La question des freins et des motivations différentes entre les femmes et les hommes, même si parfois ça se gomme, même s'il y a des hommes qui ont des freins, même s'il y a des femmes qui n'ont pas de freins du tout. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on est tous uniques. Et
bien sûr.
On est tous uniques.
Oui, on ne peut pas généraliser, on ne va pas essentialiser, comme on dit.
Voilà. Ouais. Par contre, notre culture, la façon dont on a été éduqué, va induire chez nous des choix qui sont qu'on va peut-être s'auto-limiter.
Le rapport à l'argent, notamment. On a plus de mal à emprunter beaucoup d'argent quand on est une femme, paraît-il.
Ah, c'est pas paraît-il, parce que c'est bien que les femmes accèdent très peu au financement. Et ce qu'on regarde aussi, c'est qu'en termes de se rémunérer, bien, les femmes, finalement, elles mettent très peu d'argent dans leurs revenus. Elles réinvestissent beaucoup dans l'entreprise, mais elles se payent peu. Et en fait, ne pas se payer beaucoup, c'est un souci. Ne pas se protéger aussi et prendre de prévoyance pour soi-même.
Oui, rester en auto-entreprise, par exemple. Oui, c'est ça.
On est plus fragile. Alors, en fait, les femmes sont surreprésentées dans les statuts individuels, comme les entreprises individuelles, les auto-entrepreneurs, en ayant l'impression qu'elles prennent moins de risques en créant ce type de structure. Parce que du coup, en effet, l'auto-entreprise a fait un grand changement. C'est-à-dire que si vous ne rentrez pas de chiffre d'affaires, vous ne payez pas de cotisation.
Oui, mais sauf qu'on n'a pas de retraite à la fin.
Sauf qu'à la fin, on se rend compte que si on n'a pas payé de cotisation, on n'a pas de protection au chômage. En même temps, ça, il n'y a plus grand monde qui a une protection au chômage. C'est un autre débat, mais
en ligne de compte.
Qui touche beaucoup plus les femmes.
En plus, c'est vrai.
Les femmes sont plus touchées par le chômage, les femmes sont plus représentées dans le RSA. Tout ça, ça compte. Hein. On sait aussi je ne sais plus ce que j'allais dire.
Oui, donc on était sur les freins.
Oui, donc les femmes, les sociales. S'il y a une maladie.
Oui, c'est pareil, bien sûr.
On a cotisé que pour 23%, au final, on en a pour 23% de sa protection sociale, c'est-à-dire pas
c'est ça. Oui, les gens ne se rendent pas forcément compte de ça.
En fait, nous, on aimerait bien que ces questions-là soient posées dès le démarrage. Et du coup, en fait, ces statuts qui sont limitants, qui coûtent les moins chers, au final, à un moment donné, ils deviennent extrêmement limitants parce que vous avez une bonne mutuelle, vous pourrez payer vos médicaments si vous êtes malade. Par contre, est-ce que vous pourrez payer votre loyer? Parce que vous ne pouvez plus travailler, en fait, et que vous êtes toute seule dans votre entreprise. Donc, en fait, en pensant prendre c'est un peu l'acte 2, en fait. L'acte 2, c'est de se dire, OK, on a 40% de femmes qui créent aujourd'hui, en Bretagne. C'est-à-dire que, oui, on a beaucoup poussé les femmes à entreprendre.
Il y a un progrès net.
Elles entreprennent dans quelles conditions? Elles entreprennent avec quelle sécurité? Et ça, c'est le round 2 d'entreprendre au féminin.
Alors voilà, justement, on y arrive. Alors juste petite question technique, mais il ne fallait pas trop traîner à reprendre l'appellation entreprendre au féminin Bretagne, parce que en fait, votre collectif, vous avez pu récupérer la marque. Peut-être le site internet, la page Facebook, je ne sais pas complètement.
Oui, le site internet s'est fait pirater. Donc on a réussi à faire une copie, mais on va voir comment est-ce qu'on remet les choses en place. Les groupes Facebook, ils ont été transmis, donc il va falloir qu'on les récupère aussi.
Elles vous ont transmis. Vos prédécesseurs vous ont transmis les codes.
C'est quand même pas si simple de récupérer les infos. C'est pas si évident. Donc pour l'instant, on se débrouille un petit peu par nos propres moyens. Voilà. Donc là, il y a plusieurs phases, en fait. C'est que d'abord, pourquoi est-ce qu'on l'a fait récupérer la marque? D'abord, ça a été toutes les femmes. En fait, moi, j'étais quand même à l'initiative, en fait. en me disant on va pas laisser tout ça. Perdre, quoi. Si à un moment on peut faire quelque chose, on le fera. J'ai appelé les personnes les plus proches.
Dès que la liquidation a été prononcée, même avant. D'accord.
Et j'ai appelé les femmes avec qui j'avais travaillé dans le réseau, etc. Et toutes m'ont dit oui.
Ah ouais.
C'était vraiment incroyable, quoi. Elles n'ont pas réfléchi. Et plus on était, plus on partageait le coût de l'acquisition et on faisait une proposition.
Ah oui.
Donc on n'en a pas payé ça.
Et donc c'est combien de femmes d'ailleurs
On est 20 femmes dans le groupe de débarrage.
Okay. Et quel profil en gros
Dès qu'elle était à la création en 2007, dès qu'elle était dans le réseau encore dernièrement, des femmes, la plupart entrepreneurs.
Qui sont déjà installées là.
Qui sont déjà installées, complètement. Des femmes de tous les départements bretons. C'est-à-dire qu'on a des anciennes salariées d'entrepreneurs féminins. C'est ça un peu le groupe de départ.
Donc il y a tout, c'est ça aussi qui est intéressant, quoi. C'est que il y a un peu, vous êtes bien implanté partout. Ça va être important, ça, pour la suite, je suppose.
Oui, c'est important pour la suite. Alors, on va y aller un peu par étapes. Là, voilà, là, on a commencé à communiquer sur le fait que ça y est, l'association, elle était créée. On a eu un engouement incroyable. On a juste, on a eu deux petits articles de presse, puis on a fait un post LinkedIn depuis ma page uniquement.
Et hop, tout à coup, ça a pris.
On a 200 personnes qui disent, ah. Ok, c'est super. Voilà. Donc.
Et c'est plutôt finistérien, d'ailleurs. J'ai pas demandé l'intention. C'est vraiment, c'est toute la Bretagne. Quoi.
Ouais. C'est vraiment Bretagne. Donc ça. On voit qu'il y a une attente. Après, on voit aussi que ce que faisait Entreprenant Féminin n'a pas été remplacé, en fait. C'est-à-dire que cette phase d'émergence de projet, ce moment particulier.
Donc, émergence de projet, pour rappeler aux gens qui ne savent pas, c'était donc quoi, une formation assez longue
C'était une formation sur. Alors, moi, quand j'ai quitté, c'était 10 jours étalés sur quelques mois, en fait, sur 4 mois, 3-4 mois. Je pense que c'était passé à 11 jours, puis à 12 jours. Voilà. Donc, où on travaillait justement sur la clarification de ses motivations, sur le fait de passer ses freins aussi, et puis aussi sur comment je travaille mon réseau, comment je communique, comment je structure ma démarche, quel temps. On travaille. En fait, c'est une formation, c'est là où elle existe. C'est pas le fait qu'elle soit pour les femmes ou pour les hommes, c'est pas la question. C'est une formation qui répond quelque part à la vie des femmes. Mmh. Les femmes, elles restent encore beaucoup en conciliation des temps et à s'occuper des enfants, quelque part, même si elles travaillent. Elles ont souvent la double journée, même si on a tous autour de nous des exemples où les choses bougent. Quand on regarde les statistiques, ça n'a pas bougé beaucoup. On peut quand même le dire, quand même. Ça reste encore... voilà. Donc, du coup, quel temps on va consacrer à son projet ? Est-ce qu'on... Le rapport à l'argent, tu parlais tout à l'heure, oui. Le rapport à l'argent... Moi, toutes les femmes que j'ai reçues en entretien pendant 10 ans, elles m'ont dit en rentrant dans mon bureau, ah non, mais au début, je ne vais pas gagner d'argent, je vais juste me faire connaître. Et moi, je leur disais,
et travailler bénévolement.
Et je vais travailler bénévolement parce que... Et ouais. Là, je disais, en même temps, si vous faites ça, dans 6 mois, il n'y a pas d'entreprise. Et en 6 mois, si vous n'avez plus d'essence à mettre... Donc, à un moment donné, c'est donner de la hauteur aussi à son projet. Elle a sa mesure quand même, sans mettre les gens dans le mur. On sait qu'on a beaucoup travaillé, en fait. Pourquoi c'était important ? Ce n'est pas qu'une marque, c'est une... Ce sont des valeurs entrepreneurs féminins.
Oui, bien sûr.
C'est une façon de rentrer.
C'est une vision.
C'est une vision sociétale, c'est une vision entrepreneuriale. C'est de se dire, on dit toujours, une petite entreprise, ça ne vaut pas grand-chose. Ouais, non, une petite entreprise, ça fait travailler 3 entreprises autour de soi. Quand on est en milieu rural,
surtout pour notre territoire, voilà ce que j'allais dire.
Sur notre territoire, c'est marquant. Ouais. On a un problème d'emploi des femmes. Les femmes, aujourd'hui, je prends la presqu'île de Crozon, qui est mon territoire, qu'on avait pris en 2010 comme terrain de travail sur le projet Bignou.
C'était un diagnostic, c'est ça?
On avait fait un diagnostic comparé des dynamiques d'emploi et d'entrepreneuriat des femmes. Ouais. Sur la presqu'île de Crozon, la presqu'île de Les Ardrieux, un territoire dans le Hampshire,
dans les Côtes d'Armor,
et un territoire dans le Hampshire et un territoire en Cornouailles anglaise.
Ah oui, c'était un projet intérêt, justement, ouais, d'accord.
Et en fait, qu'est-ce qu'on avait vu à l'époque ? On avait vu que la presqu'île de Crozon, l'emploi féminin était hyper peu développé, parce que forte présence de la défense, sinon c'est un peu du bâtiment, les jardins, donc du boulot manuel en fait.
Des résidences secondaires.
Et donc après des résidences secondaires.
Des retraités.
En gros, les femmes, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font du ménage 2 heures tous les samedis, quoi.
Ouais.
Super.
De l'aide à domicile.
Je caricature. De l'aide à domicile. Ouais. Et moi, j'ai accompagné des femmes qui étaient ingénieures dans les radars, qui avaient fait un suivi de conjoint, qui arrivaient en presqu'île de Crozon. Et là, hop, plus rien, quoi.
Et donc, le télétravail était moins développé aussi.
Et le travail était moins développé, on n'avait pas la fibre. Ouais. Donc tout ça faisait qu'il y avait des freins. Et il n'y avait pas de mode de garde.
Ouais.
Et il n'y a toujours pas de mode de garde suffisant pour que les femmes puissent travailler, et encore moins en horaire atypique, parce que si on va travailler à Brest ou à Quimper, qui sont les premiers bassins d'emploi, c'est 1h30 le matin, 1h30 le soir en plus. Donc sur une journée de femmes, ça compte, surtout quand on gère les gamins. Bon voilà, tout ça, ça fait que on n'a pas beaucoup bougé depuis 2010 sur ces dynamiques-là. Et en fait, par exemple, si je prends la presqu'île de Crozon, le premier employeur aujourd'hui, c'est le Leclerc.
Et oui, tout simplement.
Voilà, et quand on accompagnait une femme, je me rappelle du plan local d'insertion dans l'emploi de Brest qui accompagne sur la presqu'île, quand elle montrait une réorientation, une réinsertion réussie, c'était une femme hyper diplômée dans son métier qui devenait caissière au Leclerc. Et on nous parlait de... Et moi je disais, non, c'est de la déqualification en fait. C'est pas de l'intégration dans l'emploi choisi, en fait. Et après, du coup, on a fait une étude sur le milieu ruraux, en fait, je me rappelle, en 2013, c'était Gaëlle Diglemoin qui l'avait porté, sur quel est le poids des entreprises des femmes sur les territoires. Et en fait, on avait montré à l'époque une très petite entreprise, puisque c'est les statuts choisis, qui est souvent la seule moyen d'avoir une activité professionnelle en milieu rural.
C'est ça. Donc en fait, très petite, ça veut dire qu'on crée son emploi.
On crée son
on
emploi.
On n'a pas de salarié.
Mais en même temps, bah, ça veut dire que vous allez externaliser des tâches, par exemple, au domicile. Ça crée des bouts d'emploi. Vous allez externaliser votre compta. Vous allez... Il y a des choses que vous allez pouvoir externaliser. Et donc, en gros, ça participe de la richesse d'un territoire. Ce qu'on a vu aussi, c'est que les femmes, elles s'endettent moins parce qu'elles ont peur d'endetter, d'amener toute la famille dans un projet risqué. Bah oui, forcément.
Bah, sauf que maintenant, il y a quand même des lois qui font qu'on peut entreprendre un peu sans moins risquer ses biens personnels, quand même.
Voilà, mais à l'époque, ça n'existait pas. Voilà. C'est mieux.
Et encore, il y a des avancées.
Voilà, il y a des avancées. Et puis, il y a aussi des statuts. Là, les femmes, par exemple, il y a beaucoup de femmes. Les femmes sont surreprésentées dans les statuts de la coopérative d'activité et d'emploi qui permet d'entreprendre en restant salariée. Et du coup, c'est aussi des modèles qui sont beaucoup plus sécurisants derrière, qui coûtent un peu plus cher, certes, mais en même temps qui sécurisent. S'il y a un accident de vie, bah, vous êtes couvert, quoi. Vous êtes malade, vous avez l'assurance maladie. Ça change quand même beaucoup de choses. Et du coup, bah, tout ce. Comment dire. On est encore un peu là, quoi.
Ouais. Donc, il y a encore des besoins.
Oui, et puis donc... il faut qualifier, en fait, parmi en auto-entreprise, le revenu mensuel moyen, hommes et femmes confondus, mais il y a un petit biais, c'est que les hommes, quand ils créent une auto-entreprise, souvent, c'est une activité connexe. C'est le truc en plus.
Ah ouais, c'est ça, pour arrondir les
femmes. Par contre, les femmes, c'est leur truc, c'est leur activité principale. Ouais. Et ben le revenu moyen, c'est 560 euros.
Ouais,
donc à un moment donné, moi je veux bien qu'on devienne tous entrepreneuses et qu'on partage tous le risque de la création d'emplois. Donc on prend le risque de la création de son propre emploi. Mais si c'est pour créer de la précarité supplémentaire, ça n'a aucun sens. Donc l'idée, c'est bien ça, c'est de reprendre toute cette question sociétale que personne finalement ne traite, sur cette place des femmes dans l'économie. On a vu à la Bresse qui est tombée. Aussi qui
ouais là c'est un réseau aussi
c'est pareil
voilà
c'est pareil
pas que des entrepreneuses d'ailleurs
c'était
des cadres
surtout. Ouais, voilà. Mais ce que je veux dire c'est que moi quand j'ai commencé à entreprendre en 2007 que je suis arrivée dans les réseaux économiques il n'y avait pas de femmes
oui c'est ça
quand il y a eu Entrepreneurs Féminins d'Apport puis après Elle à Brest Elle en Cornouailles et puis Femmes de Bretagne ça a fait qu'aujourd'hui il y a plein de femmes dans les réseaux
et elles ont appris à réseauter
voilà finalement elles savaient faire hein. c'est juste que le réseau c'était pas aux bonnes heures c'était avec des codes voilà donc voilà cette question là du genre qui n'est pas au... c'était plus facile de parler d'égalité il y a 15 ans qu'aujourd'hui.
Donc, ah oui, c'est sûr.
Notre société, on parle plus des tradwives que des femmes.
Il y a un petit retour de bâton, comme on dit.
Un petit retour de bâton, voilà. Donc, il va falloir remettre tout ça aussi en se disant, il y a une légitimité à travailler, voilà. Et puis, pour les femmes, et en même temps, tout ce qui est bon pour les femmes est bon pour les hommes. C'est-à-dire que tous ces mouvements-là, ils ne sont pas de ghettoiser, comme on a pu nous le dire, etc. Ouais. C'est pas ça. C'est bien de faire avancer ensemble les hommes et les femmes. Et on a beaucoup d'hommes qui se représentent aussi dans les valeurs qu'entreprendre au féminin porte, puisque Entrepreneurs Féminins aussi, il y a quelques années, a transmis ces valeurs d'accompagnement et la façon dont elles travaillaient sans jugement via les tags. Les tags, au départ, Entrepreneurs Féminins...
Ouais, tags, c'est des dispositifs de pépinière, on va dire.
L'économie sociale et solidaire. Ouais. Donc, voilà, il y a...
Ça a beaucoup essaimé. Il nous reste juste 3 minutes, Gaëlle Vigouroux. Donc, pour ce qui est des étapes prochaines de la recréation d'Entrepreneurs Féminins, qu'est-ce qui est prévu dans les médias et puis à plus long terme, peut-être?
Alors là, on est en train de travailler sur vraiment le projet d'atelier, le projet... Donc, c'est toujours pareil, hein, atelier de formation, réseau.
Donc il y aura à nouveau émergence de projet, ça sera à nouveau proposé. Peut-être pas de 10 jours au début, mais...
Oui, et puis le temps de... Là, l'optique jusqu'à la fin de l'année, c'est d'aller voir les financeurs, en fait, et de refinancer le projet.
Et ça se présente comment, là, pour l'instant?
Pour l'instant, on a rencontré un financeur qui est Rennes Métropole, et on a déjà une promesse de mettre au pot, de mettre 10 000 euros, ce qu'il mettait déjà avant, quoi. En fait, là où était dans le parcours manque. Et la motivation qu'on a toutes, c'est que ce parcours manquant, il faut absolument refaire quelque chose parce que les femmes, elles attendent qu'on fasse quelque chose. Ça n'a pas été remplacé. Et il y a toujours autant de besoins. On sait que ça fonctionne, donc je ne vois pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Après, on n'ira peut-être pas sur le même niveau. 600 000 euros à trouver aujourd'hui, ça ne va pas,
ça va pas être facile.
Et puis surtout, on s'est dit, on ne va pas attendre d'avoir 600 000 euros pour commencer. C'est pour ça qu'on a lancé les choses. Donc aujourd'hui, déjà, les femmes peuvent nous appeler. Elles peuvent nous,
il y a des
nous
coordonnées,
contacter avec, par mail. D'ailleurs,
je mettrai sur le site internet du Presto.
Et puis, on va assez vite... L'idée, c'est de faire une rencontre régionale fin août, assez conviviale pour compter nos force et voir que les femmes se remettent vraiment
se motiver.
Et puis après, on va vraiment travailler, reprendre les entretiens au plus vite. Voilà. Et puis derrière, mettons qu'on ait un groupe de femmes identifiées qui ont le même besoin, par exemple, sur le rapport à l'argent. Bah voilà, on trouve, nous, on a des contenus de formation qu'on met en œuvre, puis on partage le coût de la prestation, et puis on fait sa formation, en fait. Oui. On va, pour l'instant, on va partir comme ça. Puis après, par exemple, on va créer les relations aussi avec France Travail, avec le département, etc.
Bah, recréer, parce qu'en fait, elles existaient, ces relations.
Et oui. Après, si l'État considère, et que France Travail considère que c'est important de financer des parcours, bah, ils viendront financer des parcours, en fait. C'est comme ça qu'on va être pragmatique, quoi. Oui. On va pas attendre de tout boucler pour pouvoir commencer, parce qu'il y a une attente forte, mais on va avancer pas à pas. Et donc là, on fait des budgets, on finit le dossier, et puis après, on va commencer à aller voir tout le monde. Et en attendant, on prépare cette rencontre pour fin août. Et puis, si les femmes ont des besoins, elles peuvent déjà nous appeler.
Et donc, les 20 femmes impliquées là, dans la recréation de l'Entreprendre au féminin Bretagne, c'est du bénévolat. Enfin, c'est ça. Hein,
mais ça ne va pas le rester. Parce que oui, évidemment, il y a un bureau où le bureau sera bénévole. Oui. Mais après, on va travailler sur de la prestation, en fait.
Oui, c'est ça. Et il y a donc déjà un bureau. Donc, l'association, elle a vraiment été...
Elle est créée. Il y a un bureau. Ouais. Oui, bien sûr.
D'accord.
Elle est créée... Elle a été créée au mois de février.
Bon, voilà. Très bien.
Donc c'est parti.
Eh bien c'est parti, et on suivra ça de près évidemment, et voilà, quand Entreprendre Féminin aura franchi une nouvelle étape, elle reviendra.
Avec grand plaisir.
Au micro de Transistor. Merci beaucoup Gaëlle Vigouroux. Merci à tous et toutes de votre écoute, et on mettra tout ça bien sûr sur le site internet. À bientôt.